10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est l'islam au présent sur Beurre FM tous les samedis. Rendez-vous en direct avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toi Philippe, bonjour à toute l'équipe, bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs de Beurre FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atamanna lakum ayyaman tayyiba wa mubaraka inshallah.
Vous êtes très beau aujourd'hui.
J'ai mis une chemise blanche.
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez où?
J'avais chaud. Alors je me suis mis une chemise blanche et puis tu vois, light.
Beau comme quelqu'un qui va à la messe.
Light. À la messe.
Ouais, une belle chemise hier. Blanche de premier communion.
Hier, c'était la messe. Hier. Jumu'a. Bon. Salat el Jumu'a.
Bon. Oh, j'ai cru que vous aviez des festivités, Imam Abdelali.
Hier, il y en avait une, un mariage. Effectivement, j'ai célébré un mariage.
Mais vous n'avez pas changé de chemise depuis hier?
Ah non, mais j'étais en khamis hier.
Ah bon, vous m'avez fait
c'était
peur.
Le khamis, la robe, tu sais, la robe de l'imam. Là, c'est civil, je suis habillé en civil.
Bon, alors, imam Abdelali...
Faut pas choquer.
Non, on va pas choquer ce matin. Je suis en train de lire ce que vous m'avez envoyé sur mon téléphone portable, puisque vous avez oublié d'appuyer sur le bouton de votre ordinateur. Je sais pas où vous avez la tête en ce moment.
Chaque fois, ça m'arrive souvent. Après, je suis obligé d'appeler madame pour appuyer sur le bouton là pour envoyer le mail. Mais bon, c'est pas grave.
Bon, on va parler des 10 premiers jours du dernier mois de l'année musulmane qui s'appelle
Ayyam Dhul-Hijjah.
C'est-à-dire les 10 Dhul-Hijjah.
Dhul-Hijjah, c'est le nom du mois. Comme Ramadan, c'est le nom d'un mois, c'est le 9e mois Ramadan.
Ça n'a pas de signification Dhul-Hijjah ? C'est pas le mois du Hajj ?
Voilà, c'est ça. Oui, ça, c'est en rapport avec la signification étymologique. Mais c'est d'abord le nom propre d'un mois du calendrier lunaire. Qui est le dernier mois, le 12e mois du calendrier lunaire qu'on appelle le mois Dhul-Hijjah et qui précède le premier mois de l'année hégirienne qu'on appelle Muharram et qui est lui aussi un mois très sacré. Nous sommes dans un mois sacré, Dhul-Hijjah est un mois sacré, mais c'est aussi un mois, le mois primordial, le mois principal pour l'accomplissement des rites du grand pèlerinage à la Mecque. Et notamment la manière pour le croyant de parachever sa foi. C'est un moment d'une intensité énorme parce que Allah Azza wa Jalla ne peut pas limiter sa générosité dans ce lieu sacré qu'on appelle Makkah al-Mukarrama et ses alentours que sont Minan et Arafat où les pèlerins vont par ce parcours du pèlerinage parachever leur foi, parachever leur religion puisque c'est là-bas où le verset du Coran qui est l'un des tout derniers, pas le dernier mais l'un des tout derniers versets révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Dieu dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, nous avons complété sur vous notre religion, ou votre religion. « Wa atmamtu alaykum ni'mati » et j'ai parachevé sur vous mes bienfaits. « Wa raditu lakum al-islam dina » et j'ai agréé pour vous comme religion l'islam. Ce verset-là, quand les juifs de l'époque ont entendu ce verset, révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, si nous avions, nous, reçu ce genre de parole divine, ce genre de message divin, ce genre d'annonce extraordinaire de la part de Dieu, eh bien, nous considérerions ce jour-là comme un jour de fête. L'attakhadnahu eidan. Et effectivement, les croyants, certes, ne le considèrent pas en lui-même comme un jour de fête, mais comme un jour où on prépare une fête. C'est le lendemain, le 10, qui est le jour de fête, la fête du sacrifice, Eid al-Adha al-Mubarak. Et ce jour-là, pour remercier Dieu, les croyants, de manière recommandée, pas obligatoire, sont invités à jeûner et à accomplir un maximum de bonnes actions, de la même manière qu'ils l'ont fait les 8 jours qui les précèdent, qui précèdent le jour de Arafat, qui, je rappelle, est le 9e jour du calendrier lunaire, de ce dernier mois du calendrier lunaire. Donc, si on récapitule,
il est recommandé de jeûner, donc les 8 premiers jours.
Les 9. Puisque le 9e jour, Arafat, il est encore plus recommandé de jeûner que les 8 premiers jours qui précèdent. Donc, les 8 premiers jours, il est recommandé de faire un maximum de bonnes actions, y compris le jeûne, mais il n'est pas spécifié le jeûne. Attention. Si vous ne jeûnez pas les 8 premiers jours, c'est pas grave. Par contre, ce qui est recommandé, c'est de jeûner le jour de Arafat, c'est-à-dire le 9e jour. Le 9e jour, il est recommandé de jeûner ce jour-là, le jour de Arafat, qui est le jour qui précède Eid al-Adha. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans un hadith authentique concernant ce jour-là, le fait de jeûner le jour de Arafat, qu'il absout les péchés de 2 années. Une année précédente et une année future. Donc, il est donc très recommandé donc à tous les croyants que de profiter de cette miséricorde divine, de cette fraîcheur de spiritualité où Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de profiter de ses bienfaits, de sa miséricorde et de nous accorder ses bienfaits par un accomplissement, par un petit acte. Et notamment le fait que ce jour-là, le jour de Arafat, c'est le jour où le croyant va jeûner et en même temps va multiplier les vocations. Une évocation qui est le fait de prononcer l'unicité de Dieu. Il va répéter la phrase « La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir ». Il est dans un instant perpétuel parce qu'il sait que Dieu est le seul jour où il descend dans le ciel de ce bas monde. Je dis bien le seul jour de l'année, jour et non pas la nuit, parce que toutes les nuits Dieu descend dans le ciel de ce bas monde. Les nuits Dieu descend dans le dernier tiers de la nuit, Dieu descend dans le ciel de ce bas monde. Mais le seul jour dans la journée, je dis bien dans la journée où le soleil est présent, où Dieu descend dans le ciel de ce bas monde, c'est le jour de Arafat où les croyants, où le croyant, où Dieu yubahi malaikatah wa yubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama, il se vante et il fait l'éloge auprès des habitants du ciel. Sur, ils vantent qui ? Ils vantent les habitants de la terre. Ils disent, regardez ceux-là, ils sont en dessous de vous, ils sont plus bas que vous. Hein, au niveau, spatial. Au niveau spatial, les anges sont au-dessus des humains. Et pourtant, Dieu va se vanter des gens qui sont sous les anges, qui sont en dessous, sur terre. Et il leur dit, que me veulent ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, sont venus poussiéreux, sont venus avec des tignasses, sont venus avec des étoffes sur le dos, par symbolique de l'humilité, par soumission. Ils ont accepté de venir jusqu'à cet endroit qu'on appelle Arafat. Que cherchent-ils ? Et là, les anges diront, mais ya Rab, ô Seigneur, tu sais mieux que quiconque ce qu'ils cherchent, ces hommes et ces femmes. Ils cherchent bien entendu ta miséricorde et ton pardon. Et là, Dieu va s'adresser à ses anges en leur disant, soyez témoins. Vous êtes, vous, aujourd'hui, maintenant, les anges, missionnés d'être témoins que tous ceux qui sont aujourd'hui à Arafat, le jour de Arafat, et qui implorent ma miséricorde et mon pardon, eh bien, je leur pardonne tous leurs péchés, même si, quelle que soit la quantité, quelle que soit la gravité de ce qu'ils ont pu commettre durant leur vie, eh bien, ils sont pardonnés, ils sont absous, ils sont soulagés, ils sont allégés, ils n'ont plus rien sur leurs épaules qu'ils assumeront le jour de la résurrection. Ils viendront comme des nouveau-nés. Donc, il est donc très important que chaque croyant, et par une logique d'extension, Rabbel Alamin dit, ben, tous ceux qui ont jeûné ce jour-là, eh bien, pareil, je vais leur absoudre, allez, une année, deux années, une année passée, une année future. L'année qui est passée, tu es pardonné. L'année qui va venir, tous les péchés que tu pourras faire, ya Abdi, ô mon serviteur, eh bien, tu es pardonné. Je t'accorde ma miséricorde. Donc, à partir de là, le prophète, alayhi salatu wassalam, annonce cette nouvelle à ses compagnons, leur dire, abshiro, apprenez la bonne nouvelle. Mais il y a un problème qui reste quand même de mise, Philippe. C'est quoi ? C'est que le prophète apprend que Dieu absout tous les péchés, mais ce ne sont pas les péchés, les erreurs que les musulmans ont commis, ou plutôt que les êtres humains ont commis les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire les torts, les injustices. Elles ne sont pas concernées par ce pardon. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa grande justice, est un Dieu de justice, et il ne peut pas pardonner à la place de la victime. Mmh. C'est à la victime qui a subi le tort que tu lui as commis de pardonner. Dieu ne peut pas pardonner à la place de la victime. Il peut pas dire quand la victime, le jour du jugement dernier, viendra se plaindre de toi parce que tu lui as fait du tort. Par exemple, tu lui auras volé de l'argent, ou tu auras, porté atteinte à sa dignité, tu auras brûlé sa maison, je sais pas moi, tu as commis un tort à quelqu'un, quelque chose de mal. Cette personne viendra se plaindre et dira, ya Rab, cet homme-là a commis du tort, m'a fait du tort. Dieu peut pas dire, ben non, ça y est, il était présent à Arafat, je lui ai pardonné. Ben non, mais ya Rabbi, moi je lui ai pas pardonné. Toi tu lui as pardonné, d'accord, mais moi je lui ai pas pardonné. Qu'en est-il ? Que se passe-t-il ? Eh bien, le prophète, effectivement, alayhi salatu wassalam, a quitté Arafat avec une satisfaction moyenne, c'est-à-dire qu'il est à moitié satisfait. Il part, il veut rejoindre Minan pour aller le jour de l'Eid, jeter les jamarat, égorger le mouton, faire tous les rituels du jour de l'Eid, comme on le sait, qui sont les rites du pèlerinage. Alors il décide de s'arrêter sur le chemin. Il dit non, 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 moi je peux pas aller à Minan comme ça. Je peux pas descendre à Minan alors que je sais que des gens vont aller devant Dieu rendre des comptes et ne pas être pardonnés du mal qu'ils ont pu faire vis-à-vis des autres. Mmh. Alors, Jibril descend sur le soir à Muzdalifa, donc cet endroit qui se trouve entre Arafat et Minan, et il vient voir le prophète, lui dit, et là le prophète lui dit, ya Jibril, est-ce que tu peux demander à Dieu de pardonner certes aux croyants les fautes qui concernent Dieu, ok, ça c'est pardonné, ok, c'est fait, mais de tout simplement de se porter garant pour dédommager la victime et ainsi pardonner à l'auteur qui est venu à Arafat pour se faire pardonner. Donc lui, Dieu dédommage la victime, prend en charge ce qu'on appelle comment on pourrait appeler ça, le dédommagement, c'est-à-dire la
compensation.
La compensation, ouais. Voilà, la compensation qui permettra à la victime de pardonner à l'auteur du tort ou du mal qu'il a accompli. Et ainsi pardonner à la fois à la victime et pardonner aussi à l'auteur du tort qui de l'injustice. Et donc Jibril a dit attends moi je peux pas me porter garant par rapport à ce que tu me demandes, je dois aller d'abord lui demander. Donc Jibril repart. Le soir, il repart alors que le prophète a prié le Maghrib al-Isha à Muzdalifa et il s'endort. Et il attend le retour de Jibril le matin. Effectivement, Jibril le matin arrive al-Fajr et il lui dit Abshir ya Muhammad, je t'annonce la bonne nouvelle ya Muhammad, qu'Allah Azza wa Jalla a accepté de prendre en charge et de dédommager la victime et donc de pardonner à l'auteur de celui qui est venu à Arafat pour accomplir le pèlerinage à la Mecque. Et là, le prophète s'est mis à sourire et il regardait dans un côté où il n'y avait rien, un terrain vague. On est là-bas à Muzdalifa, il n'y a rien. C'est vrai que Muzdalifa, c'est un grand plateau où il n'y a rien du tout. Mais il regarde dans un endroit, personne ne comprend pourquoi il regarde et il sourit. Et là, c'est Abu Bakr Sadir qui vient, ya Rasulallah, que se passe-t-il? Pourquoi tu rigoles? On te voit regarder dans un endroit. Nous, on voit rien. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Il dit, moi, je vois Iblis. Je vois Satan. Je vois le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu rigoles? Il dit, il est en train de mettre de la terre sur sa tête. Il met de la terre. Il prend de la terre, du sable, et il le met sur sa tête. Et il se lamente. Il dit, ya waïlah, ya waïlah. Il dit, oh, malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi. Qu'est-ce qu'il y a, ya Jibril? Qu'est-ce qui se passe, Satan? Pourquoi tu es autant malheureux ce jour? Nous sommes le matin de l'Aïd, le matin de l'immense consécration où est-ce que nous allons accomplir le rituel pour remercier Dieu de ses bienfaits et de nous avoir pardonné. Eh bien, c'est à ce moment-là où Iblis est le plus mal dans sa peau, où est-ce qu'il est le plus malheureux, parce qu'il dit, je les ai égarés toute l'année. Et Dieu, en un instant, il décide de leur pardonner. Malgré qu'ils ont fait du tort les uns envers les autres, eh bien, il vient et il interviendra le jour de la résurrection. Il dira à la victime, pardonne à ton frère. Il lui dira, non, je pardonne pas, ya Rab. Que veux-tu pour que tu lui pardonnes, ya Abdi, ô mon serviteur? Ya Rabbi, j'ai été jugé pour aller en enfer. Sors-moi de l'enfer. Il lui dit, d'accord. Tu sors de l'enfer et tu pardonnes à ton frère. Il lui dit, non, je pardonne pas. Il dit, pourquoi? Il dit, je veux plus que ça. Il dit, je veux rentrer au paradis. Il dit, d'accord, je te fais rentrer au paradis et tu pardonnes à ton frère. Elle a dit, non, je veux autre chose. Et là, il va continuer à dire, non, je veux autre chose. Non, je veux autre chose. Je veux un paradis. Je veux un palais au paradis. Je veux, etc. Tout ce qu'il pouvait imaginer dans sa tête, il va le réclamer et le revendiquer auprès d'Allah pour que il pardonne à la victime qui a accompli le hajj jusqu'au moment où est-ce qu'il est satisfait. Enfin, de son Seigneur, et pardonne à la victime, et Dieu lui dit, prends la main de ton frère qui t'a fait du tort, et rentrez tous les deux au paradis. Voilà l'aboutissement, voilà la satisfaction suprême qu'Allah Azza wa Jal fait profiter à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui essayent de s'imprégner dans cette immense générosité divine, dans cette immense miséricorde divine, pour obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, et enfin, pouvoir eux aussi, où qu'ils soient, dans ce monde, au profiter de cette miséricorde, ils sont pardonnés une année passée et une année future. Voilà ce que nous dit le prophète et ce qu'il nous rapporte, alayhi salatu wassalam.
Alors, Imam Abdelali, on parle de ces
dix... Alors, je vais quand même citer le hadith qui dit, oui. « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, siyamu yawmi arafa, احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده رواه مسلم. Le jeûne du jour de Arafat, j'espère auprès de Dieu qu'il puisse absoudre les péchés de deux années, une année passée et une année future. Hadith rapporté par Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi al-Busti, sahibu sahih Muslim, qui était le numéro 2 après le Bukhari des hadiths les plus authentiques rapportés par notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Philippe.
L'imam Abdelali Mamoun. Alors, on parle de ces 10 premiers jours du dernier mois de l'année musulmane d'Oulidja. Vous pouvez bien sûr poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun en direct au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, c'est l'islam au présent avec l'imam Abdelali Mamoun. Oui, imam Abdelali, vous allez pouvoir répondre en direct aux questions des auditeurs de Beur FM. On parle des 10 premiers jours de ce dernier mois de l'année musulmane. Et on a Lila qui est avec nous, qui a une question à vous poser. Lila, bonjour et bienvenue.
Oui, merci beaucoup. Salam alaikum, bonjour.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors moi j'ai une question, donc si on veut jeûner les 8 jours avant Arafat, parce que l'Aïd c'est le 9 ou le 10 du coup?
Alors le jour de Arafat c'est le jour qui précède la fête de l'Aïd al-Adha, d'accord? Donc c'est le 9e jour du mois de Dhul-Hijja. C'est ce 9e jour là qu'il est fortement recommandé de jeûner pour obtenir une récompense qui est l'absolution des péchés d'une année passée et d'une année future, d'accord?
Oui, donc pour c'est le 9.
Oui, le 9. Le 9 de... Ah, tu parles du 9 juillet. Non, non, c'est le 8 juillet. Alors, ça correspond par rapport au calendrier grégorien, au calendrier que l'on a l'habitude, nous, de suivre en France. Ça va... Comme l'Aïd, c'est probablement le 9, et je ne suis pas sûr, on verra ça...
On verra ça le premier jour.
Voilà, c'est-à-dire, jeudi prochain, tout simplement, on va le savoir. Mercredi soir, mercredi ou mardi, je ne sais plus, bref. En tout cas, il est prévu que la nuit du doute, eh bien, on puisse savoir, grâce à cela, quel jour va correspondre avec Eid al-Adha al-Mubarak, c'est-à-dire le 10e jour du mois de Dhul-Hijja. Le 10 du mois de Dhul-Hijja devrait coïncider cette année avec le 9 juillet. Je dis bien devrait au conditionnel, hein, sous condition que le monde musulman se mette d'accord sur le début du mois de Dhul-Hijja. D'accord?
Oui.
Alors, si c'est le 9, le Eid, c'est-à-dire qui va correspondre avec le 10 Dhul-Hijja, eh bien, la veille, le 8 juillet, il est recommandé, le jour de Arafat, de jeûner. Ainsi que les jours avant, il est recommandé de faire des bonnes actions. Le prophète dit dans un hadith authentique concernant ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Hein, il n'y a pas des jours où Dieu apprécie autant les bonnes actions que celles qui sont accomplies durant ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja. Alors un compagnon a dit "Ya Rasulallah, wa la al-jihad fi sabilillah?" Même pas le fait d'aller sur le sentier de Dieu, défendre la cause de Dieu, défendre la justice, défendre l'intégrité du territoire. Par exemple, un militaire qui part et qui va combattre pour une juste cause, c'est ce qu'on appelle un mujahid. Est-ce qu'il n'est pas mieux que celui qui fait des bonnes actions pendant les dix premiers jours du mois de Dhul-Hijja? Et là, le prophète a dit « Wala al-jihad fi sabilillah », y compris celui qui va... Faire le djihad n'est pas mieux que celui qui fait des bonnes actions les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja. Et là, il fait une exception quand même. Il dit « illa », sauf « illa rajulun », sauf un homme qui part avec son argent et sa vie, c'est-à-dire avec son corps, avec sa force physique, il vient défendre une noble cause. Par exemple, il vient défendre le pays, il vient défendre et combattre l'oppression dans un pays, et il meurt là-bas. C'est-à-dire, il laisse à la fois son argent et son âme. Il meurt, il donne sa vie. Celui-là, il n'y a rien qui est mieux que lui. C'est cet homme-là qui est le meilleur des hommes et qui mérite ce qu'on appelle le statut de l'éternité, qu'on appelle al-shahada. Al-majdu wal-khuloud li-shuhada al-kiram. On dit la noblesse et l'éternité à tous nos martyrs qui sont morts pour la cause. Tous ces soldats français, par exemple, qui sont morts pour la France au moment de la Deuxième Guerre mondiale et qui sont dans les cimetières de Verdun, par exemple, et qui ont combattu la tyrannie du nazisme. Eh bien, ce sont des martyrs. Les Algériens qui sont morts en Algérie pour chasser le colon et qui sont morts, il y en a plus d'un million, un million et demi. Eh bien, tous ces hommes-là et toutes ces femmes qui ont été tuées, assassinées, qui sont morts sous les bombardements, ce sont des martyrs, ce sont des shuhada. Eh bien, il n'y a pas mieux que ces hommes-là sur Terre. Et ainsi de suite, toutes les personnes qui meurent pour une noble cause, qui meurent en combattant pour défendre la justice et combattre la tyrannie et l'oppression, eh bien, quand ils meurent là-bas, ils sont martyrs et ils sont meilleurs que toute créature sur Terre, même ceux qui font des bonnes actions les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja, parce qu'il n'y a pas meilleur que ces martyrs-là. On ne peut pas les mettre en dessous. Mais juste en dessous de cela, juste en dessous de cette catégorie-là, eh bien, ce sont ceux qui vont accomplir des bonnes actions pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja. Alors, une question se pose. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas précisé les bonnes actions à faire? Pourquoi nous a pas dit, par exemple, faites la prière la nuit, ou faites des sadaqat, ou versez une zakat al-fitr? Je sais pas pourquoi il n'a pas été légiféré à un rituel spécifique pour ces 8 premiers jours, puisque le 9e, il y a quand même un jour, un rituel spécifique qui est le jeûne, et le 10e jour, le jour de l'Eid, il y a un rituel qui est l'abattage rituel, c'est-à-dire la consécration par le rite du sacrifice. Donc, il y a un rituel légiféré pour le 9e. Et le 9e, c'est le jeûne, le fait de jeûner. Et le 10, c'est la prière de l'Aïd et l'abattage rituel. Mais pour les 8 premiers jours, il n'y a rien. Eh bien, tout simplement pour donner l'occasion et l'opportunité à chacun de puiser au fond de lui-même quelque chose, une adoration qui va le rapprocher de Dieu et qui lui est propre. Chacun va réfléchir et va se dire, voilà, moi, je pense que la meilleure des choses qui me permet de me rapprocher de Dieu, c'est de lire le Coran. L'autre, il va dire non, moi c'est de faire des évocations. L'autre va dire non, moi c'est le fait de faire des invocations, c'est-à-dire des du'a. L'autre c'est des dhikrullah. L'autre va dire non, moi c'est le fait de faire des sadaqa, de donner de l'argent aux pauvres. L'autre va dire non, moi c'est d'aller aider les pauvres dans des centres où il y a des besoins et on va les aider. L'autre dit non, moi c'est d'aider les orphelins. L'autre il va dire non, moi c'est d'aller tout simplement rencontrer les malades à l'hôpital, etc., etc. Chacun va puiser dans son fond intérieur pour dire voilà, quelle est la chose qui va susciter en moi les vertus de l'humilité et la bonté pieuse et l'empathie que Dieu nous demande d'avoir à l'égard de ceux qui sont dans la souffrance et dans la détresse. Voilà ce que le croyant est invité à faire pendant ces 10 premiers jours. Il choisit pendant ces 8 premiers jours l'acte d'adoration ou l'acte de bienfaisance qui va le rapprocher le plus de Dieu. Ensuite, pour le 9e jour, il va continuer à faire ses bonnes actions s'il le veut, mais il va jeûner. Et il peut jeûner aussi les jours précédents. Les 8 premiers jours, il peut les jeûner aussi, mais c'est pas spécifié. Il n'y a pas de hadith qui dit jeûner les 10 premiers jours du mois de Hijja. Non, il n'y a pas. Il y a faites des bonnes actions. Ma min ayyam al-amal as-salih, de manière mutlaq, yani générique. Il ne précise pas quel rite. Pendant ces 10 premiers jours, il faut faire des bonnes actions, n'importe quelle bonne action. Ensuite, il le parachève par ce rituel extraordinaire qui est l'abattage rituel. Bien entendu, il peut déléguer cet abattage. Et c'est la même récompense, je vous rassure. Un jour, le prophète rentre dans la maison de sa fille Fatima, le jour de l'Aïd, et il la trouve toute seule. Elle est à la maison, toute seule dans la maison. Son mari, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, est parti avec ses enfants, Hassan al-Hussein, pour aller célébrer ce rituel, consacrer ce rituel à l'abattage et donc du bélier qu'ils avaient réservé, acheté, purifié pour l'offrir et comme la porter comme offrande pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est restée toute seule. Le prophète lui dit, mais que fais-tu là, ya Fatima? Et Fatima lui dit, bah ya Rasulallah, je suis pas un homme, moi je vais pas aller assister à ces abattages rituels. Je vais pas moi aller égorger des moutons, je suis une femme. Et là le prophète lui dit, si, va assister, va regarder, va ne serait-ce que par une présence physique près de l'abattage rituel et va formuler cette parole que je vais t'enseigner. Il a dit, quelle est cette parole, ya Rasulallah? Il dit, au moment où ton mari égorge l'animal ou que quelqu'un que tu as délégué va égorger l'animal, toi tu diras, inna salati wa nusuki, ma prière et mon rituel d'abattage, wa mahyaya, ainsi que toute ma vie, wa mamati, ainsi que toute ma mort, lillahi, je les accorde et je les consacre à Allah, hein, Lillahi Rabbil Alamin, Seigneur des mondes. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Il n'a pas d'associé. Wa bidhalika umirt. Et c'est ce pourquoi j'ai reçu l'ordre. J'ai reçu cette injonction. Wa ana awwalul muslimin. Et je suis le tout premier des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant ce rituel et en déléguant ce rituel. Et là, un compagnon qui avait profité de l'opportunité pour écouter le prophète bavarder avec sa fille Fatima et échanger ses propos, va interroger le prophète. Il lui dit, Ya Rasulallah, ô envoyé de Dieu, est-ce que ce que tu dis à ta fille Fatima est réservé à la famille du prophète ou à toute la communauté des croyants? Et là, le prophète a dit, non, cette recommandation, je la fais à toutes les membres de la communauté. Ceci n'est pas réservé aux membres de ma famille. Donc, celui qui ne peut pas lui-même procéder à l'abattage rituel, parce que bon, il n'est pas professionnel, il ne sait pas faire le travail de sacrificateur, c'est un métier. Il y a une gestuelle à respecter. Il faut donc abattre l'animal d'une certaine manière. Il faut du professionnalisme. Et il faut de l'expertise. Donc le mieux, et en plus pour avoir la possibilité de faire un maximum d'abattage, on va créer une sorte de chaîne et qui va permettre d'optimiser les abattoirs mobiles par exemple ou les abattoirs pérennes pour pouvoir faire profiter cet abattage à un maximum de monde. Donc il va y avoir une chaîne qui va être mise en place où le sacrificateur va tac 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 à vitesse grand V égorger un maximum de monde pour permettre un maximum de musulmans et de familles et de foyers d'avoir leur mouton le plus tôt possible le jour de l'Aïd ou le lendemain ou le surlendemain.
Bon, Lila, est-ce que ça répond à votre question?
Ouais, j'ai très très élargi la question de
Lila. Oui, très très bien, ça a vraiment été très bien développé.
Et j'ai pas terminé.
Merci beaucoup à l'imam.
Machallah, mais là il y a la pause, il faut faire une petite pause. La pause s'impose.
Merci Lila pour votre question. Merci, d'autres Lila. Appels dans un instant si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun
01 53 48 3000. Vous appelez tous là. Allez, je vais voir le standard blindé inchallah. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM 10h 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, l'imam Abdelali Mamoun, nous parlons des dix premiers jours, hein, de ce dernier mois de l'année musulmane, le mois de Dhul-Hijjah. Est-ce que ce sont ces jours-là les meilleurs jours de l'année, imam Abdelali?
Oui, effectivement, le prophète l'a dit, ma min ayyam amlu salih habbu ilallah min hadi al-ayyam. Donc ce sont les jours, effectivement, où l'accomplissement des bonnes actions sont les mieux récompensés que n'importe quel jour de l'année. Alors, il y a même certains savants qui disent que Dieu, quand il a juré sur les 10 nuits, dans le Coran, dans la sourate Al-Fajr, la sourate l'aube, ou Al-Fajri ou Al-Ayalin Ashr, il jure sur 10, les 10 nuits, ils disent que ce sont les 10 premiers jours du mois de l'Hijja, même si je suis assez plutôt sceptique quant à cette exégèse, je préférerais parler des 10 dernières nuits du Ramadan. Alors, est-ce que les 10 dernières nuits du Ramadan sont-elles meilleures que les 10 premiers jours du mois de l'Hijja? Eh bien, nous pouvons donner à chacun son moment. Toutes les deux sont les meilleures. C'est-à-dire, les 10 dernières nuits sont les 10 meilleures nuits de l'année. Et les 10 premiers jours, les journées du mois de Dhul-Hijja, sont les 10 meilleures journées du mois de l'année. Donc les deux peuvent être effectivement meilleurs, l'un la nuit et l'autre le jour, tout simplement. Et cela évite de choisir entre les 10 dernières nuits du Ramadan, qui bien entendu, dans lequel il y a la nuit du destin, la nuit de la prédestinée, la nuit du mérite, hein, Laylat al-Qadr, et les 10 premiers jours du mois de l'Hijja, où il y a le jour de Arafat, le jour de l'Aïd, etc. En tout cas, il y a un hadith rapporté qui est authentique, qui dit que le meilleur jour de l'année, c'est le jour de l'Aïd. Le meilleur jour de l'année, le tout meilleur de tous les jours de
plus
l'année.
Plus que le jour de Arafat.
Voilà, plus que le jour de Arafat. Alors qu'il y a un autre hadith qui dit que le meilleur jour de l'année, c'est Arafat. Donc c'est des avis, et en même temps, c'est des hadiths, des références que chaque savant et chaque compagnon de prophète a rapporté concernant les mérites de chaque jour de l'année. Est-ce que c'est le jour de Nahar? Est-ce que Nahar, ça veut dire le jour du sacrifice, le mot Nahar, puisque dans le verset coranique, la plus petite sourate du Coran, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, nous t'avons accordé comme récompense le fleuve du Kawthar, dit Dieu à son prophète Mohammed dans cette petite sourate, Inna a'tayna kal Kawthar, Kauthar, qui est le fleuve au paradis, un fleuve réservé au prophète Hassan, qu'il décrit lui-même, qui est d'une beauté extraordinaire. Et Fasalli li rabbika wanhar, ça c'est le deuxième verset, prie pour ton Seigneur et immole, c'est-à-dire tue à Abba et accomplis ce sacrifice, cette consécration du rite du sacrifice en abattant cet animal que tu as consacré, que tu as présenté en offrande à Dieu. Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar, celui qui te critique, c'est celui qui est coupé de toute racine, de toute descendance, hein, puisque le prophète a été accusé, puisqu'il n'avait pas de garçon, tous ses garçons sont morts en bas âge. Il y a un des détracteurs du prophète qui a dit, regardez, il n'est même pas capable d'avoir un héritier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'héritier, le prophète. Il n'avait que des héritières, puisque les garçons sont morts en bas âge, Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim, ces trois garçons sont morts en bas âge. Alors que les filles, elles ont réussi à vivre longtemps, elles ont grandi, elles se sont mariées, certaines ont même fait des enfants. Zainab a eu deux enfants, Fatima en a eu plusieurs. Fatima a eu au moins Al-Hassan, Al-Hussein et Muhsin. Elle a eu au moins trois garçons. Et donc le prophète a eu comme héritier, ce sont des héritières. Les garçons, comme je répète, Al-Qasim est mort en bas âge, Abdullah est mort en bas âge, et enfin Ibrahim, le fils de Maria la Copte, lui aussi est mort en bas âge. Donc ce détracteur, cet ennemi de Dieu, cet ennemi du prophète, a critiqué, a essayé de entacher l'image du prophète en disant, regardez, il n'est même pas capable d'avoir un héritier, il est l'abtar, il est le fameux abtar. Le mot abtar, ça veut dire celui qui où s'arrête et s'interrompt sa généalogie et sa descendance. Et Dieu a dit, pour défendre son prophète, que celui qui te critique, c'est lui le abtar. C'est lui qui a une descendance rompue.
À noter que ceux qui font le pèlerinage, hein, et qui sont donc le 9e jour à la station Arafat, est-ce qu'ils jeûnent cela ?
Non, ils ne jeûnent pas. Et eux, ils ont un rituel qui leur est propre. Tous ceux qui doivent accomplir le pèlerinage ne doivent pas jeûner le jour de Arafat. Ils sont dans Arafat afin d'y accomplir un maximum de bonnes actions. Eux aussi, bien sûr, ils sont au summum de l'adoration, du repentir, des évocations, des invocations, surtout des invocations. Khayr du'a, du'a yom Arafat. Le prophète a dit, le meilleur des du'a, c'est le du'a que l'on fait le jour et dans le lieu de Arafat. Le jour de Arafat et le lieu de Arafat. Et il dit, wa khayru ma qultuhu ana wa an-nabiyyuna min qabli, et la meilleure des paroles que j'ai tenues, moi et les prophètes avant moi, ce jour-là, c'est le fait de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, il n'y a de dieu si ce n'est Allah, à lui la royauté, à lui la louange, mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait mourir, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de, il est ce qu'on appelle omnipotent et capable de tout faire. Donc à partir de là, cette parole est fortement recommandée comme étant ce qu'on appelle du'a thana, c'est-à-dire une invocation par éloge, où le musulman s'abstient de demander et remplace son invocation par une évocation. Il remplace le du'a par un dhikr. Hein? Il remplace le du'a par un dhikr, qui est le fait d'évoquer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il aime le plus le jour de Arafat, puisque Dieu lui-même descend dans le ciel de ce bas monde le jour de Arafat. Eh bien, il apprécie que l'on prononce cette formule. Eh bien, il y a même, pour comparer, l'évocation, qui est une invocation, mais une évocation, c'est-à-dire que c'est à la fois un du'a remplacé par une évocation, c'est celui du prophète Jonas qui, dans le ventre de la baleine, va non pas demander « Oh Dieu, sauve-moi !» Il sait bien qu'il est dans une situation catastrophique, qu'il est voué à la mort. Il va être ce qu'on appelle tué par les sucs gastriques de la baleine. Il va mourir. Même s'il arrive à s'en sortir, ben il sera au milieu de la mer. Il va certainement à plusieurs centaines de mètres sous l'eau mourir sous la pression de l'eau. Donc il va mourir ou il va tout simplement se noyer. Donc il n'a pas d'autre moyen, au lieu de dire à Dieu sauve-moi, eh bien il va dire la ilaha illa ant, il n'y a de Dieu si ce n'est toi, subhanak, gloire à toi, inni kuntu min adh-dhalimin, je faisais partie des gens injustes. C'est vrai que le jour de Arafat, beaucoup de prédicateurs encouragent les croyants à formuler cette phrase qu'a tenue Sayyidina Younous, puisque tout de suite après Dieu dit wa najaynahu min al-gham, nous l'avons sauvé de sa situation catastrophique en le jetant sur le bord de la mer. Et effectivement, Younous, par cette formule, en disant « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin » a été sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tenons aussi cet exemple pour dire à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui nous écoutent et qui sont dans la détresse, qui sont dans une difficulté, face à une impasse, eh bien de formuler cette... Est-ce qu'il y a une impasse plus grave que celle de Sayyidina Youssouf qui est dans le ventre de la baleine? Eh bien, si vous vous sentez aujourd'hui dans une situation, dans une impasse, j'ai entendu des gens se plaindre de leurs enfants qui sont égarés, qui ont choisi des chemins un peu bizarres, etc. J'ai dit, écoutez, prononcez cette formule. La ilaha illa ant. Hein, il n'y a de Dieu si ce n'est toi. Subhanaka. Hein, gloire à toi. Puisqu'il dit dans le Coran, walaula an kana min al musabbihin, que s'il n'avait pas glorifié Dieu, la labitha fi batnihi ila yawmiddin, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Donc le fait de glorifier Dieu est un moyen de sortir des impasses, des situations difficiles dans lesquelles la rationalité, les moyens matériels ne peuvent pas résoudre, eh bien c'est tout simplement s'en remettre à Dieu par la glorification et de dire la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Amin, amin, walhamdulillah rabbil alamin. Voilà ce qui est fortement recommandé, et en espérant que tous et toutes vous passez de bonnes vacances cet été, inshallah.
Bon, moi je voudrais un mot pour finir sur le sacrifice. On est dans une époque où le bien-être animal est devenu un sujet qui est sur toutes les lèvres, où les gens, faut dire la vérité, les gens ils sacrifient de moins en moins de bêtes hein, pour l'Aïd. Est-ce qu'on pourrait le remplacer par autre chose, ce sacrifice, ou pas?
Non, on peut pas remplacer. C'est comme le sapin de Noël, on va pas le remplacer par un palmier. On demande pas aux chrétiens de remplacer leur sapin, et pourtant les sapins c'est aussi pareil. Beaucoup d'arbres qui sont abattus. Je rappelle quand même que là l'animal n'est pas gaspillé puisque sa chair est consommée. Aujourd'hui, il faut savoir que tout au long de l'année, ce sont plusieurs millions d'animaux qui sont abattus. Des bovins, des ovins. Quand on va dans les abattoirs pérennes, toute l'année, tous les matins, vous allez dans les abattoirs, des animaux sont abattus. Et parfois dans des conditions catastrophiques, dans des conditions qui sont pas normales. Et ça, il faut résoudre ce problème-là. Il faut que l'élevage et la manière d'abattre les animaux soient revus on revoit nos copies, on revoit la manière pour que l'animal soit respecté. Mais sacrifier l'abattage rituel parce que des animaux sont maltraités, je ne conçois pas, je vois que c'est complètement absurde, parce qu'on va se focaliser sur quelques centaines de milliers de moutons, ou quelques dizaines de bovins, ou centaines de bovins, alors que tout au long de l'année, je répète, quand vous allez dans des abattoirs, tout au long de l'année, des animaux sont abattus. Et ça, personne n'en tient... Non, ce qui les intéresse, c'est seulement au moment où il y a l'Aïd. C'est-à-dire quand il y a un rituel musulman, quand ça concerne l'islam et les musulmans, comme par hasard, on parle les conditions d'abattage et nanani nanana. C'est ça pour moi, c'est de l'hypocrisie, c'est du n'importe quoi. Hein, il faut respecter les animaux. Notamment, le prophète l'a recommandé en disant que il fallait bien aiguiser sa lame pour éviter de faire souffrir l'animal au moment de l'égorger. Il faut pas lui montrer la lame, c'est-à-dire il faut pas aiguiser la lame devant l'animal et le terroriser, le lui faire peur et le traumatiser. Il faut bien entendu le rassurer, lui l'apaiser, etc. Il faut que ce se fasse dans des bonnes conditions, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, Philippe. Mais pour cela, dire qu'il faut arrêter l'abattage, c'est n'importe quoi. On doit déléguer à des professionnels dans des abattoirs mobiles et pérennes, oui. Faire les choses dans le respect des règles, comme là il est précisé dans la directive européenne des droits des règles d'abattage, et qui est la règle 19. Et voilà, et tout se passe bien, il n'y a pas de difficulté.
L'imam Abdelali sur Beurre FM, on vous donne rendez-vous samedi prochain. Quel est votre numéro de téléphone, imam Abdelali, rapidement?
06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.